La culture, c'est une mémoire qui éclaire le présent. Une rencontre entre les voix d'hier et les rêves de demain. Elle se cache dans la beauté d'un geste, dans la mémoire d'un mot, dans le silence d'une image. Et elle renaît chaque fois que l'on tend l'oreille, chaque fois que l'on ouvre les yeux et chaque fois que l'on ose écouter. Culture 3.
À l'écoute des programmes d'LG Chaîne 3. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture 3. Ici, la culture prend son temps. Elle se raconte en musique, en images, en mots, en idées. On parle d'art, de vie, de ce qui nous touche et nous fait réfléchir. Au menu de ce lundi, la rentrée en Nouba de Lila Boursali. C'est le 21 octobre prochain à l'Opéra d'Alger. Un thème pour cette 11e édition, la gratitude envers nos maîtres. On en parle avec Lila Boursali qui est notre invitée aujourd'hui. Il sera également question d'art plastique avec l'exposition intitulée Aksouh au pays de la lumière en hommage à l'artiste Mohamed Aksouh qui normalement ne devrait pas tarder à arriver dans les studios d'Alger Chaîne 3 en compagnie de Chaouqi Adjali, son manager. Voilà pour le programme de ce lundi. Excellent après-midi sur Alger Chaîne 3.
Thank you.
La culture, c'est le souffle des âmes à travers le temps. Elle est la sève invisible qui nourrit l'humanité. Culture 3. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Culture 3 jusqu'à 15h. Et avec nous déjà dans les studios d'LG Chaîne 3, une voix que vous connaissez évidemment, Lila Boursali. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Ravie de vous avoir dans l'émission Culture 3.
Merci à vous, Amel, de m'avoir invitée et merci aux auditeurs de nous accueillir à travers les ondes.
Et on attend, j'espère qu'ils ne vont pas tarder, hein, Mohamed Aksouh, le grand Mohamed Aksouh qu'on ne présente plus, en compagnie de Shawqi Adjali pour parler de l'exposition qui démarre ce 15 octobre au niveau de Dar Abd al-Latif et au musée des Beaux-Arts aussi. Alors, la rentrée en Nouba, c'est le 21 octobre prochain à l'Opéra d'Alger, avec, on va dire, un événement qui est devenu, Lila, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, majeur dans le calendrier culturel que vous présentez à vos fans. C'est un rendez-vous incontournable. Chaque année, il faut qu'il y ait une rentrée en Nouba.
Oui, tout à fait. Chaque année, depuis, donc là, c'est la 11e édition.
Oui, 11e édition.
L'année dernière, on avait fêté les 10 ans avec la sortie du nouvel album, etc. Et chaque année, à la rentrée, on veut présenter cette thématique ou alors ce concert qui reste un concert très classique. Hein. C'est vraiment le plus classique de nos concerts où on présente donc une Nouba chaque année, une nouvelle Nouba chaque année, une nouvelle thématique. Et cette année, donc on a voulu pour cette 11e édition, je vais dire cette deuxième dizaine qui se prépare, rendre hommage à nos maîtres. C'est le moins qu'on puisse faire. Voilà. Donc effectivement, là, on a un petit peu de retard quand même.
Oui.
D'habitude, c'est au mois de septembre, mais comme il y a eu...
Toutes les autres rentrées.
Voilà. Il y a eu l'événement Mouloudiyet à Oran le 5 septembre et ça nous a pris beaucoup de notre énergie, etc. On a voulu prendre le temps d'abord de préparer cette 11e édition. Et puis, voilà, il a fallu régler quelques petits détails avant de donner la date du 21 octobre.
Alors, la rentrée en Nouba, c'est donc le 21 octobre à l'Opéra d'Alger avec, vous venez de le dire, hein, pour cette 11e édition, une thématique, un thème, la gratitude envers nos maîtres. Vous consacrez un concert à la Nouba qui est un pilier de la musique arabo-andalouse pour célébrer ceux qui ont, on peut dire, dédié toute leur vie. C'est vous qui le dites, même en présentant l'événement, dédié toute leur vie à la préservation de ce précieux patrimoine. C'est un magnifique hommage, finalement.
Bah écoutez, ça, comme je l'ai dit, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est rendre hommage à ces personnes qui, comme vous le dites, ont donné leur vie pour cet art, mais aussi ont formé des générations d'artistes. Il faut savoir que tous les artistes qui baignent dans la musique andalouse et tout ce qui tourne autour de la musique andalouse ont été des élèves de ces maîtres-là. On prend n'importe quel nom sur la scène artistique andalouse. Ce sont des artistes qui ont été formés au sein d'associations, qui ont eu des maîtres, qui ont eu une formation classique avant d'aller peut-être vers d'autres genres musicaux. Et ces maîtres sont notre d'abord notre refuge, parce que pour nous, c'est à chaque fois qu'on a quelque chose à revoir dans la musique andalouse, on va vers eux. Et puis comme voilà, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est de leur rendre hommage. Alors là, on s'est concentré sur deux personnalités qui sont d'abord Cheikh Boukli Hassan de Tlemcen et Cheikh Znadji d'Alger. Alors beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi il n'y a pas Constantine? En fait, moi, j'ai beaucoup de respect d'abord pour l'école de Constantine Malouf et j'aime beaucoup cette école et je suis très ouverte aussi à l'école de Constantine. Mais dans ma formation personnelle, je me sens plus proche de Tlemcen et d'Alger par rapport à mon parcours, à moi. J'ai vécu à Tlemcen, j'ai vécu aussi à Alger. Donc vraiment, je me sens très proche de ces deux écoles. Voilà pourquoi j'ai voulu choisir ces deux personnalités.
Et leur rendre hommage, concrètement, ça va se faire comment? Vous allez... c'est quoi le programme pour cet hommage à ces grands maîtres?
Alors, on va commencer par une Nouba dans le style tlemcenien, parce que c'est ma première école, et c'est ce que je présente chaque année. Cette année, nous avons choisi la Nouba Hsin, avec une touche à la Kbira, qui est d'ailleurs très appréciée aussi à Alger. Elle est magistrale, elle fait 16 minutes ou 17 minutes, notes d'exécution par l'orchestre dirigé par Madame Leïla El Kebir. Mm-hmm. Et puis, donc, on fera la Nouba Hassin. Et juste après la Nouba, nous allons commencer les hommages avec Cheikh Boukli. J'espère pouvoir chanter avec lui un Enqilab en duo. Mm-hmm. Et avec Cheikh Khaznadji, enfin, on espère l'avoir avec nous parce qu'il est très fatigué. Mm-hmm. J'ai eu sa famille qui m'ont dit qu'il était un petit peu fatigué, qu'il risquait de ne pas être présent. Mais la deuxième partie, on va dire, elle va être, on va commencer par un Aroubi algérois. Donc en fait, il va y avoir les deux écoles qui vont être présentes. Mm-hmm. Et bon, dans la Nouba, vous savez, la Nouba, c'est ce que nous avons un petit peu en commun, même si la façon d'exécuter est un petit peu différente à Tlemcen. Mais c'est ce que nous avons le plus commun, on va dire, avec Alger. On a beaucoup de morceaux à Tlemcen qu'on retrouve aussi à Alger. Donc pour moi, la Nouba, ce n'est pas que Tlemcen. Pour moi, la Nouba,
c'est la musique arabo-andalouse.
C'est la musique arabo-andalouse, voilà.
C'est le pilier de la musique arabo-andalouse, on peut
tout
le dire
fait.
Ou pas
Oui, tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de textes de la Nouba, quelques textes de la Nouba nous viennent de l'Andalousie, mais d'autres textes ont été écrits aussi par des poètes algériens, même si c'est au XVIIe, XVIIIe siècle. Mm-hmm. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois écoles. Les rythmes, on retrouve beaucoup de rythmes communs dans les trois écoles. Et surtout Alger et Tlemcen, ce sont vraiment deux écoles qui se rapprochent énormément.
Donc voilà des hommages qui seront rendus à des maîtres de la musique arabo-andalouse. La rentrée en Nouba se prépare depuis quelque temps, j'imagine. Mm-hmm. Ça demande beaucoup de sacrifices finalement, Lila Boursali. Même si c'est la 11e édition, même si on est bien d'accord, il y a des automatismes qui s'installent, on est rodé, vous avez
oui.
la même équipe.
Oui, tout à
leur
fait.
Tête, vous venez de le dire, la brillante Leïla El Kebir, votre orchestre vous accompagne depuis déjà plusieurs années. Mais ça se prépare quand même.
Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut beaucoup de préparation. D'abord en amont par moi-même et par Leïla. Parce que bon, on ne présente pas un programme à l'orchestre qui n'est pas abouti. Mais moi, je ne le vis pas comme un sacrifice. Et vraiment, quand je me retrempe dans la Nouba, je revis. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me nourrit. C'est un sentiment assez particulier. Et vraiment, je me sens très, très heureuse. Au début, quand je commence à travailler sur le projet, parce que je commence d'abord, moi, à m'imprégner avant de commencer à travailler avec Leïla. J'ai toujours cette appréhension parce qu'il y a cette difficulté quand même hein, dans la Nouba. J'ai toujours peur de ne pas choisir le bon morceau, celui qui va le plus à ma voix, celui que, enfin, et qui correspond à la thématique. J'ai cette appréhension, mais dès que je commence à écouter un maximum de morceaux dans la Nouba choisie, comment vous dire, revis.
C'est plus une contrainte, c'est que du plaisir pour vous.
Et après vient l'étape où je dois convaincre, parce que même les musiciens ont leur avis à donner, ils ont des préférences pour des morceaux, mais des fois ce morceau ne me correspond pas. Alors il y a un genre de j'essaye de faire une présentation, un pitch
aux musiciens pour les convaincre.
Leïla aussi a son avis à donner, elle me conseille. J'essaye aussi de demander à d'autres personnes en dehors de notre équipe, parce que le regard extérieur aussi est important.
Oui, c'est important.
Et voilà, et donc cette période où il faut arriver à faire le choix final des morceaux est comme un accouchement, on va dire.
C'est un heureux événement.
Voilà, la douleur, elle est à ce niveau-là. Oui. Il y a vraiment le bonheur de se lancer dans ce projet, et puis au moment où on vient pour accoucher du programme final, là, il y a beaucoup de difficultés.
Ben, j'imagine, vous avez réussi à les convaincre finalement pour se joindre à vous pour cette 11e oui. édition. Quand vous préparez une nouvelle rentrée, vous allez faire un petit tour sur les précédentes pour essayer de voir ce qui n'a pas bien marché, ce qui a cloché, pour éviter de faire peut-être les mêmes erreurs, pour s'améliorer tout simplement, parce que porter une critique constructive nous permet de s'améliorer et d'aller de l'avant. Donc, vous essayez de revenir en arrière pour mieux sauter, comme on dit.
Oui, tout à fait. D'abord, les critiques sont importantes parce que si on n'a pas de critiques, ça veut dire qu'on n'a touché personne. Et non, c'est, il faut les prendre en considération. Après, bon, ça dépend des critiques, ça dépend de qui ça vient, ça dépend quel genre de critiques. Si elles ne sont pas constructives, c'est à mettre de côté. Mais nous, déjà, on porte déjà des critiques
sur notre rendement,
notre travail.
Rendu, oui.
Et, Et puis, bon, je suis obligée aussi de revenir sur les éditions précédentes. D'abord, pour ne pas refaire les mêmes Nubas, pour ne pas refaire la même chose. On essaye toujours de présenter quelque chose de nouveau au public. Là, justement, la Nuba Hassine a été très, très discutée au sein de l'équipe.
De l'équipe de Lila Boulsaï.
Parce que je ne l'avais jamais chantée. Enfin, c'est pas que je l'avais... Si, je ne l'avais jamais chantée en rentrée en Nuba. Je l'avais chantée dans d'autres occasions. Et je disais, non, mais on l'a déjà travaillée. Non, ben, on retravaille d'autres morceaux dans la Nuba Hassine. Et... tout le monde voulait absolument jouer cette majestueuse Touchia Kibira qui est vraiment un chef-d'œuvre. Donc voilà, il a fallu qu'on trouve un compromis.
Ben oui.
Mais c'est vrai que maintenant 11, c'est la 11e édition. On voit l'évolution en fait dans cet événement-là. On le prépare différemment, que ça soit du point de vue de l'organisation ou du choix artistique. On essaye, disons, de voir s'il n'y a pas eu des lenteurs ou dans les autres éditions. On essaye de les corriger. Bon, c'est jamais parfait. Hein. Il faut laisser la marge pour la 12e et la 13e édition. Mais on essaye justement d'équilibrer notre spectacle. Parce que la Nuba, il faut savoir que pour certains, ça peut être lourd. Mm-hmm. Pour certains, peut-être la voix comme quelque chose de pas très digeste. Mm-hmm. Mais moi, mon but, c'est justement de leur montrer toute cette beauté du texte, de la mélodie. On s'est trop habitué à la mélodie simple, à ce qui est facile à écouter, mm-hmm. À un petit peu une musique consommable qui ne dure pas dans le temps. La Nuba est un patrimoine qui dure depuis des siècles. Mm-hmm. Alors, il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ce legs, parce que c'est beaucoup de gens ont donné de leur vie et de leur énergie pour pouvoir garder ce patrimoine intact.
Oui.
Et notre responsabilité, c'est de continuer sur les pas de ces maîtres.
Alors, lorsque vous parlez de vos concerts, notamment la Nuba ou même les autres concerts, vous parlez de spectacle. Mm-hmm. C'est un peu de ça que vous parliez à l'instant, essayer de rendre les choses pas digestes. Enfin, j'irai pas à dire cela parce que c'est pas soporifique non plus. On est bien d'accord quand on est.
Pour certains, il faut l'accepter. Il faut l'accepter.
Pour certains, peut-être, mais la musique arabo-andalouse, comme vous dites, Lila Boulsaï, c'est un patrimoine qui nous vient depuis très longtemps et qu'on a envie de garder, de préserver. Donc, un spectacle est réfléchi, étudié, mm-hmm. pour que ça puisse justement plaire à tout le monde, pas forcément aux amoureux de la musique mm-hmm. arabo-andalouse, parce que on peut inviter les amoureux de la musique mm-hmm. arabo-andalouse pour des Nubas. Ils ne verront pas ça lourd mm-hmm. ou soporifique. Au contraire, ils aiment ça. Mais il faut essayer de toucher d'autres personnes. Et c'est ça où le travail se complique, peut-être.
Oui, c'est un vrai challenge. Parce qu'il ne faut pas perdre justement ce public connaisseur qui attend de nous à ce qu'on présente un programme riche.
Et qu'on soit meilleur à chaque fois, oui.
Voilà. Et puis, il ne faut pas perdre aussi ce public qui a peut-être cette curiosité, mais si on lui présente quelque chose qui ne va pas vraiment lui plaire, il risque de nous lâcher. Et donc, vraiment, ce juste milieu est difficile à trouver. Et c'est pour ça qu'on a insisté pour que cet événement soit présent chaque année. Mmh. Chaque année, on présente cette Nuba, même si elle est lourde musicalement.
Pour fidéliser, peut-être.
Voilà, ce public, même mmh. si en dehors de la rentrée en Nuba, on peut faire des spectacles un peu plus légers qui attirent les gens vers des
comme il était une fois
à Grenade,
ou tant
d'autres spectacles qu'on a présentés. La rentrée en Nuba reste vraiment pour un public assez averti.
Oui.
Ceci dit, la porte est ouverte aussi à toute personne curieuse de connaître encore
de
plus
découvrir,
et de découvrir ce patrimoine.
Et d'apprécier ce riche patrimoine. Vous restez avec nous, Lila Boulsaï. On attend l'arrivée de nos invités. Mohamed Aksouf, qui ne devront pas tarder en compagnie de Shawqi Adjali. On va apprécier la voix de Lila Boulsaï et on revient à vous juste après.
Thank you.
Alors, avant d'accueillir nos invités qui sont arrivés dans les studios d'LG Chaîne 3, un mot du choix de Hin Junhye sur le titre qu'on vient d'apprécier.
Oui, je vous l'ai dit, ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai pas écouté ce morceau. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que c'est un morceau que j'ai pris de chez Shir Salah Boukli, justement. Voilà,
à
j'ai
qui travaillé. Vous allez rendre hommage.
Oui, exactement.
Le 21
exactement.
Octobre prochain. Bienvenue dans les studios d'LG Chaîne 3. J'ai envie de dire monsieur parce que c'est un grand monsieur. Monsieur Mohamed Aksouh, un honneur pour moi de vous avoir dans les studios d'LG Chaîne 3. Merci d'avoir dit oui à l'invitation de Culture 3.
Merci de nous accueillir.
Vous et Chaouki Adjali qui vous accompagne, ouais. un ami de longue date,
ouais.
qui accompagne Mohamed Aksouh, y compris dans cette exposition qui va démarrer le 15 de ce mois, qui s'intitule Aksouh au pays de la lumière. Alors, le pays de la lumière, c'est l'Algérie, Mohamed Aksouh.
Ben, c'est l'Algérie, c'est la Méditerranée. Hein.
Oui. C'est toute la Méditerranée.
Ben oui. Je pense qu'on appartient tous oui. à la Méditerranée. D'ailleurs, dans la nourriture, dans la manière d'être.
Dans notre gestuelle.
Oui, on est très méditerranéen, c'est vrai.
Des méditerranéens.
Mais on parle d'une lumière exceptionnelle, pas que dans la peinture. Il y a quelques jours, on appréciait l'interview d'un jeune réalisateur algérien qui avait pris part au festival du film méditerranéen à Annaba et qui était venu nous dire que la lumière en Algérie, notamment peut-être sur les villes côtières, ouais. elle est exceptionnelle. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est son regard, c'est sa manière d'être, c'est ses sentiments. Chacun à son niveau absorbe les choses
tout à fait.
Comme il le sent.
Tout à fait.
Par exemple, nous allons manger un plat. Nous avons 1, 2, 3, 4.
Oui. On va manger quoi?
N'importe quoi. Vous allez le trouver juste. Elle va le trouver piquant.
Ouais.
Elle lui va la
trouver
salé.
Un peu fade.
Voilà.
Donc voilà, c'est la vie
Donc,
de chacun.
La communication entre les êtres
oui.
a une limite. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer.
Mm-hmm. Alors, cela fait plus de 60 ans que vous exposez vos œuvres. Mohamed Aksouh, un artiste qu'on dit aussi discret que talentueux. C'est cette discrétion qui a fait la longévité de l'artiste que vous êtes?
Balak, peut-être, je ne sais pas.
On va peut-être poser la question à votre ami, hein, Chaouki Adjali.
Oui, peut-être que Aksouh est quelqu'un de très, très, très simple, surtout. C'est la simplicité même.
Vous pouvez vous rapprocher un peu du micro.
Oui, pardon. En tant que un très grand artiste pour moi, c'est, je pense, l'un des plus grands de sa génération actuellement.
Mm-hmm.
Et Mohamed Aksouh, effectivement, n'a plus exposé dans son pays depuis longtemps. À l'exception d'un tout petit passage dans une galerie qui, en 2006, si je ne me trompe pas, à la galerie Art en Liberté, où on avait exposé quelques petites œuvres. Mais l'hommage que je voulais rendre, en fait, je suis, je peux dire, hein,
oui, allez-y.
L'initiateur
de cette exposition,
et je voulais absolument, absolument qu'on puisse voir sa peinture et sa création. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, bon.
Un des fondateurs de la peinture moderne en Algérie, ce n'est pas rien, c'est important qu'il expose ici chez lui, dans son pays. Ça vous fait quoi de revenir exposer en Algérie, Mohamed Aksouh?
Qui veut s'amener?
Ça vous fait quoi de revenir exposer en Algérie?
Eh bien, ça me ramène à très loin. Et l'Algérie, je n'ai jamais quitté l'Algérie, parce que lorsqu'une chose qui est en vous vous manque, vous l'appréciez beaucoup plus. Oui,
la première fois que la presse a parlé de vous, quand vous avez exposé au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, vous aviez à l'époque 28 ans,
ouais.
Et vous avez exposé pour la première fois le 19 juillet 1962. Il y a eu le quotidien La Dépêche algérienne qui a titré en gras Le premier salon de l'indépendance connaît un véritable succès, une révélation. parmi ces jeunes, ouais. Mohamed Aksouh. Ça vous remonte à des lointains souvenirs, mais vous avez gardé en souvenir cette première exposition au lendemain de l'indépendance.
Pour moi, c'était hier. Hein.
Oui.
Le temps, il passe tellement vite.
C'est très juste.
C'est...
Mais vous gardez quoi comme souvenir de cette première expo de l'Algérie indépendante?
Je ne veux pas être, je ne sais pas comment dire, mais le temps, il efface tout. Hein. Mm-hmm. Par exemple, vous avez une cicatrice là, vous saignez, ça vous fait très mal, et ainsi de suite, mm-hmm. jusqu'à ce que ça se referme et vous guérissez. Et de temps en temps, vous la voyez.
Et on se rappelle.
Ça vous rappelle. Oui. Mais il n'y a pas le même... voilà, le temps...
Le temps guérit les cicatrices, guérit les douleurs et apaise les peines. Ouais. C'est ça ce que vous voulez dire?
Oui, oui, oui.
Et vous êtes ravi de revenir en Algérie pour exposer?
Ah, bien naturellement.
Rencontrer peut-être la nouvelle génération des artistes peintres chez nous en Algérie. Ils vont découvrir le grand artiste peintre que vous êtes, membre fondateur de la peinture moderne.
Moi, je dis à la peinture.
Oui.
Pas les grands mots, c'est... Il y a la peinture. Il y a la peinture lorsque vous la voyez aujourd'hui. Mm-hmm. Et vous voyez la même peinture dans 10 ans, c'est un autre regard. Je dis, si à partir de votre regard, vous n'avez pas une histoire à vous raconter, mm-hmm. personne ne peut rien pour vous. Parce qu'il va vous raconter son histoire. Mm-hmm. Si je vous dis ici, je me suis brûlé. Je vous expliquer le mieux qu'on puisse expliquer ce que c'est qu'une brûlure. Vous allez bien comprendre ce que je vous dis.
Mais on ne va pas ressentir ce que vous ressentez. Et
tant que vous ne vous êtes pas brûlé, vous ne savez pas ce que je vous dis. Parce qu'à ce moment-là, ce sera votre histoire.
C'est ça, finalement, pour vous, la peinture. Parce que vous avez d'abord, on va dire, vous êtes initié un peu à l'art en autodidacte. Hein, à la céramique tout d'abord, ensuite à la poterie, avant de vous sentir attiré un peu plus vers la sculpture et la peinture. Pourquoi la peinture, elle vous donne une meilleure façon d'exprimer vos sentiments?
Pourquoi on fume une cigarette?
Je ne suis pas une fumeuse, je ne saurais vous répondre, Mohamed Aksouh.
Ben oui, on ne sait pas, il y a des choses qui se passent. D'accord. Des fois, on écrit quelque chose, oui. Lorsqu'on peint, j'appelle ça écrire, qu'on ne sait pas lire aujourd'hui.
Ouais.
Et alors, on ne comprend pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais si ça nous reste, et on met de côté ce qu'on a écrit aujourd'hui, dans 4, 5, 10 ans, mm-hmm. on revoit les mêmes choses et on arrive à trouver une explication. Le regard, on va dire, s'adapte sur la chose.
Mm-hmm. Parce que nous avons du recul.
Pardon?
Parce que nous avons du recul.
Parce que les années façonnent notre façon de voir les choses.
Quelqu'un. Un profane qui n'a jamais vu de peinture.
D'accord.
Parce que la peinture qu'on fait, que je fais, mm-hmm. Ce sont des paysages. Des paysages, peut-être qu'au départ, vous allez les trouver bizarres.
Oui.
Et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, vous allez revenir voir. Vous allez avoir un autre regard. Mmh. Et au bout de la 10e fois, vous fabriquez votre alphabet pour votre propre lecture. Mmh. Et c'est comme ça que... Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer. Si je vous explique...
C'est des sentiments qu'on ressent.
C'est ce que je suis. Mmh. C'est ce que je peux être.
C'est pour ça que la peinture a plusieurs visages, c'est-à-dire chacun la voit
absolument, comme
la nourriture, ressent.
C'est comme un livre.
Nous sommes les uns les autres très proches, mais quand même à un certain niveau, nous sommes différents. Mm-hmm. Chacun a sa manière d'être, chacun
a sa façon d'exprimer aussi ses sentiments. Lila le fait par la musique,
mais
peut-être.
Ce qui est intéressant, c'est que
exactement.
Lui peint pour exprimer son sentiment, et puis il y a cette liberté de pouvoir voir les choses avec ses propres sentiments. Ça veut dire que la peinture vit, mm-hmm. c'est pas quelque chose de figé.
Et c'est pour ça qu'on dit aussi...
Même si on la voit figée, mais elle ne l'est pas.
Et c'est pour cette raison qu'on dit aussi qu'une œuvre, une fois finie, et si on la présente, elle ne nous appartient plus. Elle appartient aux personnes qui vont venir voir, que ce soit des tableaux, un livre ou de la musique, un album. Pourquoi c'était très important de mettre en place cette exposition Aksouh au pays de la lumière, Chawqi Ajali? C'est important que les Algériennes et les Algériens d'aujourd'hui puissent découvrir la grande œuvre qui est celle de Mohamed Aksouh.
Oui, en fait.
Il ne répondra pas à la question, lui, parce que je sais qu'il est tellement modeste qu'il ne me dira pas un mot. C'est pour ça que je vous pose la question à vous.
Non, mais en fait, ça fait quelques années que je... Enfin, ça fait plus de 20 ans ou 22 ans que je connais Mohamed Aksouh. Et franchement, j'ai toujours été un peu intrigué par le manque, justement, de présentation au niveau des musées, au niveau des galeries, de tout l'ensemble des peintres, qu'ils soient d'ici ou à l'extérieur. Mohamed Aksouh, quand même, si vous voyez le nombre d'expos qu'il a eu à travers la France et le monde, je me suis dit, quand même, il était temps. Et je voulais absolument, ça fait un an et demi que je bosse sur
cette exposition, oui.
Et je voulais, enfin, on en a discuté ensemble. Mohamed est comme, il est très discret. Au début, il m'a dit non. Mais j'ai insisté. Et je suis content, en tout cas, je suis très heureux que ses œuvres soient sur les 6 messes du Musée National des Beaux-Arts.
Mmh. Et le vernissage aura lieu justement au Musée des Beaux-Arts le 15 octobre. Vous dites à propos de la peinture, Mohamed Aksouh, vous me dites si je me trompe, hein, que la peinture est partout, il suffit juste de regarder. Si on voit un caillou, un arbre, peut-être que ça ne va rien nous...
Exactement. Oui. Exactement.
Il suffit juste d'avoir un regard.
Voilà. Vous avez dit, je me répète, si à partir de ton regard, tu n'as pas une histoire à te raconter, personne ne peut rien pour toi. Et chacun a sa propre alphabet pour sa propre lecture.
C'est compliqué de ne pas avoir un regard.
Oui,
on a tous un regard,
mais ça se cultive.
Voilà.
Ça se cultive comme l'amitié, comme tout.
Il faut se donner cette liberté d'avoir ce regard.
Qu'on a, excusez-moi de vous interrompre, Mohamed Aksouh, peut-être qu'on a ce regard, mais qu'on n'a pas le moyen d'exprimer ce que l'on ressent. Ouais, et c'est toute la différence entre vous et moi.
Moi, je pense qu'il y a des êtres qui ont quelque chose en eux, mais ils n'ont pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui leur dit ça, c'est important.
Ouais.
Parce que eux, ils ne savent pas. Vous comprenez? Ils se révèlent. Ils ne se révéleront jamais. Et ça, c'est bien dommage.
Et ça, c'est tout le rôle de l'éducation, justement.
Oui. Par exemple, est-ce que lorsqu'on reçoit une émotion, on pense?
Oui. Oui et non.
Ah non?
Oui et non.
Si vous pensez, l'émotion n'est plus.
Voilà, vous la stoppez.
Oui, pendant une fraction de seconde ou une seconde ou quelque chose. Lorsqu'on reçoit une émotion, on ne pense pas.
Dans la vie.
Mais est-ce qu'on a cette envie systématique d'exprimer cette émotion? Moi, c'est ce qui m'intéresse finalement dans cette équation que vous nous proposez. On peut voir des choses, ressentir des choses, mais ne pas avoir envie de l'exprimer ou de la partager avec quiconque. Et moi, je me dis, c'est ça finalement l'artiste. C'est qu'il veut bien partager son émotion, l'exprimer et la rendre publique.
Mais peut-être absolument.
Oui.
Pas la même émotion, pas le même regard, le même effet.
Oui.
Mais lorsqu'on fait quelque chose et qu'on veut le partager avec des gens qu'on aime ou des gens qu'on découvre.
Je pense qu'il faut, c'est vrai, il faut pas calculer son émotion, en fait. Il faut la laisser vivre. Ouais. Et peut-être que nous, c'est vrai, notre génération, on nous a trop appris à tout maîtriser, à tout calculer, et on nous a pas laissé cette liberté, et peut-être qu'on l'a ressenti comme une fragilité que d'exprimer
et de partager.
Mais ça rapporte rien à nos...
Mais au bout du compte, ça rapporte quelque chose. Moi, je vis
une satisfaction.
Oui. Je dis au niveau matériel. Parce que si chacun se met à arriver, personne n'ira planter le blé, ni quoi que ce soit.
Personne ne travaillera. Ouais. Vous restez avec nous, Mohamed.
Eux, eux, ils ont leurs problèmes et nous, on a notre problème.
Très juste. Mais, oui, Chaouka Adjali, allez-y. Avec plaisir, allez-y.
Effectivement, Mme Borsali a dit quelque chose. L'éducation aussi très importante. Oui. Or, cet aspect-là, tout ce côté est quand même très, très, très fragile pour ne pas dire autre chose. Vous savez, moi, j'ai découvert la peinture à l'âge de 14 ans. La première exposition à la galerie des quatre colonnes, l'actuelle Assemblée nationale. À l'époque, il y avait des expos. Moi, je connaissais strictement rien, ni à la peinture, ni à rien. Mais j'ai été subjugué ce jour-là par ces toiles énormes qui étaient disposées dans ce qui s'appelait à l'époque la galerie des quatre colonnes. Mais il y a eu un travail ensuite qui a été fait par mes aînés, par mon frère, pour amener, justement. Or, si on ne fait pas ça à l'école, à la maison, au lycée, à la fac, etc.
Partout, oui.
Juste un mot. Tout à l'heure, j'étais au musée en train d'accrocher les œuvres.
Pour préparer l'exposition.
Voilà, et des jeunes passaient. Mais ils passaient.
Ils ne se sont pas arrêtés pour se poser la question, c'est quoi?
Oui, je les ai arrêtés. J'ai dit, vous ne voulez pas regarder un peu? Vous voyez, c'est-à-dire, il faut provoquer aussi.
Et c'est peut-être le but de cette exposition aussi?
Mais bien évidemment, bien évidemment. Et surtout, rendre hommage à notre grand Mohamed Aksoua.
Alors, on va encore en parler de cette exposition dans un petit instant, le temps d'une respiration musicale. On revient juste après. À tout de suite.
We'll be right back.
Encore quelques minutes à passer en votre compagnie, en compagnie de nos invités dans les studios d'Alger Chaîne 3, Lila Boursali, Mohamed Aksouh et Chaouki Adjali. On peut parler dans la peinture que dans la musique arabe-andalouse, en ce qui vous concerne, Lila Boursali, qu'il y a cette éternelle dualité, on va dire, entre modernité et évidemment tradition. Pour la musique andalouse,
oui, je pense encore plus pour la musique andalouse.
Oui, c'est un peu plus compliqué parce que il est très important d'être dans le respect de cette musique ancestrale, ce patrimoine qui est vieux, très ancien et auquel on ne doit rien changer. Mais il y a aussi la touche personnelle de Lila qui doit absolument être là à chaque fois.
Oui, c'est très important. C'est vrai que dans la musique andalouse en particulier, on a rattaché la musique andalouse à un patrimoine figé,
oui.
Alors que c'est un patrimoine qui a vécu, qui s'est adapté à son temps à chaque fois, qui a évolué pendant des siècles. Donc c'est suffit juste d'être dans la continuité des anciens en fait et de laisser justement son sentiment s'exprimer. Et forcément, un artiste doit mettre du sien dans ce qu'il présente.
Il doit apporter sa touche personnelle.
Voilà, sa touche personnelle. Simplement. Alors l'écriture de nouveaux textes ou l'écriture de nouvelles mélodies dans la musique andalouse, ça a été banni pendant plusieurs années, disons presque un siècle. Et puis là, ça revient. On sent que cette nouvelle génération a envie d'écrire de nouvelles choses avec les outils
que
nous retrouvons dans la musique andalouse.
Oui.
Voilà, il ne s'agit pas de créer peut-être une autre musique, même si ça peut être possible aussi.
Oui.
Mais disons que si on reste dans le sillage de la musique andalouse, c'est de pouvoir utiliser les mêmes outils et exprimer son propre sentiment. Et puis, on peut aussi, avec les anciens textes aussi, avoir une autre lecture, une autre manière d'exprimer aussi le même texte. C'est comme dans la poésie. Chaque poésie peut être lue différemment, comprise différemment, utilisée différemment. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, de faire dans mon modeste travail.
Et apporter cette touche, pas forcément de modernité, mais apporter sa touche personnelle à un travail comme celui-ci ne doit pas forcément exclure le fait de changer quelque chose à ce qui est déjà là depuis tant d'années. Et ça peut contribuer aussi à la sauvegarde de ce patrimoine.
Parce que chanter ou lire des textes, d'anciens textes, ça leur permet de vivre encore. Mm-hmm. Et moi, le mot modernité me dérange des fois. Parce que bon, le but n'est pas de moderniser quelque chose, c'est juste de se l'approprier et de l'exprimer à sa façon, forcément avec son vécu, forcément avec sa façon d'écouter, parce que la musique aussi s'écoute différemment.
Très juste.
Moi, quand j'écoute un morceau de musique andalouse, je ne l'écoute pas comme quelqu'un qui ne connaît pas cette musique. Donc forcément, quand je vais le réinterpréter, je l'ai réinterprété avec mon vécu à moi.
Et c'est finalement ça, ce qu'on appelle cette touche artistique que vous, que Mohamed Aksouh, oui, que Chaouki Adjali ont forcément et que peut-être les autres n'ont pas. Ça a été compliqué de choisir les tableaux qui vont faire partie de l'exposition Chaouki Adjali, Mohamed Aksouh.
Non, je laisse
Mohamed Aksouh.
Mohamed.
Le choix des tableaux pour l'exposition Aksouh dans le pays de la lumière.
On aurait pu choisir beaucoup d'autres.
Oui.
Mais on s'est arrêté à ce qui est
une quinzaine d'œuvres.
Voilà.
Une quinzaine d'œuvres peintes à des moments différents, à des années différentes.
Oui. Absolument. Oui. En fait, la production
Chaouki Adjali, oui.
La production de Mohamed est incroyable. Mmh. J'aurais voulu ramener un conteneur. Il y a des choses extraordinaires, il y a des périodes, effectivement, les périodes font évoluer. Mmh. Mohamed a peint à différentes périodes des choses différentes, effectivement. Mais c'est le choix de Mohamed pour le choix de ces 15 œuvres qu'on a ramenées. Parce que c'était une première aussi. Hein, c'est-à-dire que bon, maintenant, j'imagine une autre plus grande exposition.
Si vous dites, Inch'Allah, pourquoi pas. Quand vous revoyez tout... Parce que là, on parle d'une œuvre artistique dans sa totalité. Je ne parle pas d'œuvre de nombre de toiles, mais je parle de l'œuvre de l'artiste dans sa totalité. Quand vous revoyez vos différents tableaux, c'est clair que vous dites que celui-ci, à partir à cette période, là, c'est moi à cette période-là, mais... C'est facile de finalement essayer de tout résumer dans une seule exposition ou c'est très compliqué, Mohamed Aksoua?
Ça dépend. Ça dépend des, du regard des visiteurs.
Voilà, encore une fois.
Voilà. C'est... Moi, quand je peignais, j'appelais ma mère. Je lui ai dit, maman, viens voir. Elle me dit, celui-là, il est en colère. Celui-là, il est fait la gueule. Celui-là, je vous assure. Et
c'était votre première critique.
Voilà.
La maman, c'était la première critique.
Et vraiment, c'était ça. Un jour, comme je disais tout à l'heure, on m'a dit pourquoi je fume. J'ai dit pourquoi je peins. J'ai dit pourquoi je fume des cigarettes. C'est pas plus que ça. Mais on fait tellement de choses autour que monsieur tout le monde ne va pas pousser la porte d'une galerie pour aller voir la peinture. Il dit ça, c'est trop compliqué pour moi. Alors que c'est pas vrai.
Oui.
C'est une chose très simple, très, je sais pas comment dire.
De pouvoir ressentir une émotion, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde.
Voilà.
Oui,
voilà,
la peinture reste accessible à tous.
Un jour, ma première expo, il y a un critique qui a parlé d'une toile de moi, une gouache. Pour moi, c'était un fond marin. Parce que je faisais beaucoup de promenades marines avec le masque. Et je trouvais ça des couleurs, des formes.
D'accord.
Et c'était extraordinaire. Il a dit d'une toile. Oui, il a parlé d'une toile. Il disait que ceci nous fait penser à une cathédrale se trouvant quelque part en Europe qui ne peut nous émouvoir. Il a dit ça. Il a dit ça au lendemain de l'indépendance. Tu comprends? Alors moi.
Un fond marin.
Mais c'est son regard.
Lui, moi, c'est l'émotion qu'il a reçue.
Avant, je ne suis jamais allé en Europe, moi. Oui. La première fois que je suis allé en France, c'était en 1962. Parce que j'étais instructeur à l'éducation populaire, instructeur d'art plastique. Et on m'a donné un titre ou un titre de voyage ou je sais pas quoi et pour faire un stage connaissance du Languedoc. Je suis allé. Par contre, lui, il avait vécu. Il avait vécu en Europe.
Donc c'était son regard, lui,
oui,
qui n'avait
rien quand même
à voir avec votre peinture. Ouais. Alors, on rappelle le vernissage le 15 octobre, donc mercredi, à partir de 16h30, au niveau des musées, du Musée National des Beaux-Arts, une exposition qui va durer jusqu'au 30 octobre 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui sont à l'écoute des programmes d'LG Chaîne 3, qui viennent nombreux à assister au vernissage, qui viennent découvrir la beauté de l'œuvre de Mohamed Aksoua?
Absolument, très 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 nombreux même.
Très nombreux. Et le 21, ben, on leur dira aussi d'aller très nombreux.
Oui,
à
absolument, très 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 nombreux.
Pour aller assister à la rentrée en Nouba de Lila Boursali. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous cet après-midi sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Un réel plaisir de vous avoir eu à nouveau dans les studios de la chaîne 3, Lila Boursali.
Merci.
À Mohamed Aksoua. Je vais vous donner la parole. Merci à Mohamed Aksoua d'avoir dit oui à l'invitation. C'est un grand honneur à moi de vous avoir dans mon émission.
Et moi, je suis très heureux d'être votre invité.
Merci mille fois.
Un
dernier mot.
Je voulais remercier l'ARC, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui a été d'un grand, grand...
Avec la collaboration du Musée National des Beaux-Arts.
Du Musée National des Beaux-Arts.
Merci mille fois à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. À Hinz Dunhia qui était à la réalisation. Rendez-vous demain dès 14h sur les ondes d'Alger Chaîne 3 pour un nouveau Culture 3. À demain. Ciao.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. But I thought we
make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. Let me know. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart.